Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Sport Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne de 20h à 21h. On embrasse Bilal hein, qui est plutôt resté à la maison au chaud pour regarder la seconde mi-temps entre Bâle et l'Olympique de Marseille. Toujours ce score de 0-0 en huitième de finale de la Conférence League. L'OM est pour le moment qualifié. Puis j'en profite également pour donner l'autre résultat entre un club français, donc le Stade Rennais qui reçoit Leicester sur le score de pour le moment un but partout. Bourigeaud avait ouvert le score. Fofana, le français, vient d'égaliser. Au sommet de ce Time Sport de ce soir, on parlera Ligue des Champions avec la fin de parcours du LOSC qui s'est incliné avec les honneurs sur le score de 2-1 face à Chelsea. On parlera de Liverpool qui ne lâche plus Manchester City. Enfin, la liste de Didier Deschamps avec notamment des surprises. On y reviendra avec nos consultants et nos invités. Et la liste de la sélection marocaine qui affrontera la République démocratique du Congo en éliminatoire, en barrage de la Coupe du Monde sans Hakim Ziyech, la star. Mes consultants, ce soir, nous avons l'inévitable Viknesh qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Viknesh?
Salut tout le monde, ça va très bien. On a un beau programme avec des très beaux invités, donc ça va très bien.
Eh ben écoute, directement, voilà, les invités sont là, ils sont deux. Il y en a un qui commence à avoir l'habitude du plateau de Time Sport. Avec nous, c'est Wesley. Bon, comment ça va, Wesley?
Ça va très, 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 très bien et je suis très heureux de revenir parmi vous.
Impeccable, hein, on te voit un peu surfer à droite, à gauche. les projets avancent plutôt bien.
Hein. Ça va, et ben justement, de toute façon, mon associé est là et on va pouvoir bien en discuter.
On y reviendra avec, bien sûr, votre associé Mathieu Mansette, si je ne me trompe pas, si je le prononce bien. Mathieu, comment ça va?
Ça va très très bien, merci. Et toi?
Impeccable.
Ouais, ça va.
Ok, impeccable, impeccable. Je vous dis tout de suite, d'ailleurs, vous parlerez de foot avec nous. Hein, vous êtes footeux, donc voilà, hein, le programme de ce soir, vous êtes dedans. Il n'y a que Viknesh qui est là. J'aurais dû être à côté, mais bon, Bilal... Et il est un petit peu moins bien, donc bon, voilà. Hein. Allez, on enchaîne. Allez.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux, c'est le LOSC qui s'incline assez logiquement face à Chelsea, qui quitte la scène européenne, qui quitte la Ligue des Champions, Viknesh, éliminé par le champion d'Europe en titre, Chelsea.
De manière tout à fait logique, en fait. Lille, moi, hier, je trouve que Lille, j'étais au stade, j'ai vu le match. Lille a joué à 200%.
Ah, t'étais au stade, toi?
Oui.
Toi, ouais, t'es comme ça.
Il faisait super froid aussi. Donc, j'aurais pu rester à la maison, ça aurait été mieux, je pense. Mais bon, il faisait super froid. Mais en fait, Lille était très, très chaud. Ils ont très, très bien joué. Ils ont créé quelques occasions. Mais Lille était à 200%. Mais Chelsea, à l'inverse, ils étaient, je pense, à 70-75%. Ils ont accéléré 2-3 fois, mais ils ont marqué 2 buts. Donc, moi, je pense que Chelsea a géré la rencontre. Ils étaient en totale gestion. On voit la composition au départ. Il manque Mason Mount, il manque Lukaku, il manque Ziyech. Il y a pas mal de joueurs qui sont sur le banc. Il a joué Kovacic, Kanté et Jorginho, 3 milieux de terrain plutôt défensifs, on va dire. Donc, ils ont bien géré. Et à la fin, ils égalisent à la fin de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils mettent le but pour donner la qualification définitive. Donc, moi, je pense que Chelsea a très bien joué le coup. Et Lille, en fait, ils ont su faire ce qu'il fallait faire. Ils ont pu faire ce qu'il fallait faire pour eux. Mais c'était pas assez. Il y a 15 classes d'écart entre les deux équipes. Lille, c'est une bonne équipe française. Et je pense qu'ils étaient un peu en sur-régime, en Europe en tout cas, parce qu'on a loué leurs prestations qui étaient très très bien. Mais aujourd'hui, non, il y a 15 classes d'écart entre Lille et Chelsea aujourd'hui. Donc c'est logique. Bravo à Lille pour ce parcours. Et Chelsea qualifié en quart de finale, c'est très bien.
Toi qui étais au stade, Pierre Mauroy, hier soir, t'as senti dès le début que ça allait être compliqué pour Lille, qu'il n'y allait pas avoir forcément d'exploit.
Il y a quelques supporters qui croyaient vraiment. Mais la grande majorité, ils connaissent le foot. Ils savent que Lille, c'est un bon club et Chelsea, c'est largement au-dessus. Donc, ils croyaient au miracle, on va dire. Mais au fond, non, c'était pas possible. Même les joueurs, je pense que ça se voyait, ils savaient. Je pense que quand on voit l'équipe, on voit le collectif de Chelsea et le collectif de Lille. Et moi, je pense que ce qui a été primordial, c'est l'absence de Renato Sanchez. C'est lui qui est le cœur du jeu, c'est lui l'homme du jeu, c'est lui le métronome au milieu qui fait la différence. Il n'était pas là et ça s'est vu. Ouais. Lille n'a pas fait la différence.
Ouais, Lille n'a pas fait la différence, donc c'est Lille quitte, on va dire, la tête haute.
La tête haute, largement, largement, bravo à eux. Et bah, de toute façon, là, on verra s'il y a d'autres clubs qui vont se qualifier. Mais en Ligue des Champions, il n'y a plus de clubs français.
Wesley, votre avis sur Lille?
Comme le collègue, j'étais au stade hier soir. Après, moi, je suis.
Tout le monde était au stade. Est-ce que Giovanni, votre réalisateur, était au stade aussi?
Non, après.
Mathieu, t'étais au stade?
Ah, ok. Après, alors, il y a des points sur lesquels je suis d'accord, d'autres non. Alors oui, il y a des classes d'écart, ça s'est vu et ça s'est vérifié assez rapidement. Moi, je pense que le stade a vraiment joué le jeu. Les supporters ont vraiment joué le jeu. Et Lille a manqué de prise d'initiative offensivement. Il y a eu très peu de centres. Il y avait pas de folie. Et sur un match comme ça, tu sais que si tu le démarres tambour battant, t'emmènes le public, etc. Ils ont quand même la chance d'ouvrir le score. Je pense que inconsciemment, un peu avant la mi-temps, ils se sont relâchés. Ils se sont dit voilà, super, 1-0, on va au vestiaire. Tu prends un but. Et après ça y est, après Chelsea ils étaient par contre je le rejoins sur le 70-80%, ils étaient en gestion après. Et le pire c'est que tu joues une équipe qui n'a que ça à jouer parce qu'en championnat ils sont un petit peu distancés. Donc je suis un peu déçu de la part de Lille. Je pensais qu'ils allaient mettre un peu plus de folie,
notamment
sur il y avait la place sur les côtés. Surtout le côté gauche, le milieu lillois, il était beaucoup plus rapide que l'arrière droit du côté de que Caspi. Et j'étais un peu frustré parce que je pense que Lille aurait pu faire mieux.
Ouais. Notre autre invité ce soir, Mathieu Mantzet avec nous. Vous avez vu la rencontre entre Lille et Chelsea?
Oui, j'ai regardé la rencontre. Après, j'aime bien le résumé de Wesley. Il a un peu résumé. On a discuté du match. On pense vraiment les mêmes choses.
Donc, on va dire que Lille sort la tête haute. Vous pouvez pas espérer forcément mieux du LOSC.
Ouais, non, c'est ça. Ils sont sortis la tête haute. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner pendant ces 90 minutes.
Ouais.
Après, Chelsea était trop fort.
Ouais. Chelsea était au-dessus. Votre avis, les garçons, sur le Paris Saint-Germain qui sort aussi en huitième de finale.
Sincèrement, Paris, je pourrais en parler jusqu'à 2h du matin. Non, c'est comme je le dis depuis quelques jours, c'est un mal pour un bien. Parce que pour moi, la gestion actuelle.
Mais chaque fois, on dit ça en fait.
Laisse-moi finir, s'il te plaît. La gestion du Paris Saint-Germain actuelle, elle est plafonnée. Donc pour moi, les joueurs, ils ont un pouvoir qui c'est du jamais vu. Ils ont un pouvoir extraordinaire, que ce soit sur le coach, etc. Donc un mal pour un bien. Tu es devant, on va dire, allez 155 minutes sur les deux matchs et tu prends un but et ça y est, tu mentalement.
Il n'y a plus personne.
Ce qui est fou, c'est que si tu prends les stats du match, je crois que sur les 10 ou 15 dernières minutes, ils ont fait plus de fautes que sur l'ensemble du match. À 1-1, t'as encore envie? Pourquoi tu pètes les plombs, en fait? Et il y a peu de gens. Alors, on est ébloui parce que Karim Benzema, c'est incroyable ce qu'il fait, mais c'est un petit Real. Paris sort contre un petit Real. Donc, non, pour moi, ils sont à leur place. Prenez le championnat et voilà, qu'il y ait du changement un peu dans ce club.
Big Nesh, tu sembles pas totalement d'accord avec Wesley.
En fait, non, je suis totalement d'accord avec lui. Mais en fait, là, il a dit que c'est un bien pour un mal. Mais contre United, c'était ça. Contre le Barça, c'était ça. Contre City, c'était ça. Mais il n'y a pas eu d'évolution au
final. Entre-temps, il y a eu une demi-finale et une finale.
Mais c'est peut-être ça qui cache c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt au final. Parce qu'il n'y a pas eu d'évolution au club. Nasser, il est toujours là. Leonardo, il est toujours là. Il n'y a que l'entraîneur qui change tout le temps. Et les joueurs, ils sont toujours présents. Donc moi, je vois pas comment on peut changer ça, en fait. Sauf si les Qataris prennent des grosses décisions où ils veulent vraiment changer de hiérarchie. Et là, ça peut faire quelque chose. Il peut y avoir des répercussions. Mais je pense que comme ça, il n'y aura pas grand-chose. Et ça sera toujours pareil avec ce club, en fait, malheureusement. Parce qu'on sait très bien. Parce que les joueurs, on sait, on a Messi, Neymar, etc., c'est des stars. On sait qu'il y a une colonie argentine, même sud-américaine plus généralement, qui fait un peu la loi au club, dans les joueurs, je précise. Donc après, tant qu'on ne change pas Nasser, qu'on ne change pas l'hiérarchie de ce club, ça restera comme ça. Et malheureusement, avec les Qataris, je pense que. Il n'y a pas que le sport qui rentre en compte. Il y a la confiance, il y a plein d'autres détails qui rentrent en compte. Et ça qui est le plus important pour eux, malheureusement.
Mais sur l'action, élimination du Paris Saint-Germain.
Bon, ça m'a fait mal, je suis supporter du.
Aïe. Une nuit blanche ou pas?
Ouais. Aïe. Plus que ça. Parce que pendant deux jours, j'étais mal.
Ce Big Nesh, ça fait six jours qu'il ne dort plus. Hein.
Ouais, on n'était pas là pendant deux jours, je dormais pas, ça m'a fait mal. On a perdu le match sur les 30 dernières minutes. Dès qu'on a encaissé le premier but, on s'est relâché, il y a eu de la pression et. On n'a plus joué, on a déjoué en fait. Beaucoup de fautes, beaucoup de discussions avec l'arbitre. Et on n'attaquait plus. Ça jouait plus vers l'avant. On faisait que défendre et on ne défendait pas. PSG ne défendait pas bien. On a créé beaucoup de fautes et voilà.
Ouais, et vous êtes d'accord un peu avec ce qui est dit c'est vrai qu'on est à l'extérieur de tout ça, mais on connaît un peu le football. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer, évoluer, modifier.
Après, faut être modéré, tu vois, parce que le truc, c'est que les gens parlaient à chaud. Ah, faut tout changer. Ouais. Il faut constater. le Paris Saint-Germain, malgré tout, sur les dernières années, il y a quand même eu une demi-finale. Il y a eu une finale. Donc le club, il a grandi. Il y a des étapes qui ont été passées avec l'arrivée de Zlatan, avec l'arrivée de certains joueurs. Par contre, est-ce que lors de chaque mercato parisien, il y a des plus-values au niveau des joueurs? Ça, c'est un vrai débat. Et on prend le dernier mercato estival. Pour moi, c'est un échec total en majuscule. Par contre, les clubs, comment ils doivent fonctionner, et Mathieu, il pourra le dire aussi, les grands clubs, le pouvoir, le coach, il doit avoir du pouvoir, la direction doit avoir du pouvoir, et les tâches, elles doivent être partagées. Et là, au Paris Saint-Germain, le problème, c'est que même si tu suis pas le club de près, tu vois que c'est le foutoir. Et à un moment, ce qui se passe en coulisses, forcément, ça a un impact sur le terrain. Tu peux pas avoir le bordel en coulisses, et être performant et prendre des grands titres. C'est pas possible. Regardons les derniers vainqueurs des LDC. Regardons Inside, comment ça se passe. L'un ne va pas sans l'autre.
Ouais. Ouais. Petite évolution en coupe, en Europa League conférence. Bâle vient d'ouvrir le score face à l'Olympique de Marseille. Grâce à Dan Ndoye sur le score de 1-0. Donc 1-0 pour Bâle. Qu'est-ce que tu as dit, Viknesh?
J'ai dit quel beau résultat pour l'instant.
D'accord. Donc en fait, on demande en Ligue des Champions que tous les Français soient pour le PSG. Par contre, toi, tu.
J'avais dit ça, moi.
Tu ne te caches
j'ai
pas.
J'ai jamais dit ça, moi. L'indice UEFA, là, je pense que ça va être compliqué, là. Parce qu'il n'y a plus personne. On est premier pour la phase de poule, nous, en France. Après, quand c'est sérieux, il n'y a plus personne. Donc voilà. Après, encore une fois. Non, mais après, pour parler du PSG, je pense. Wesley, il a tout bien expliqué. Moi, je pense que les joueurs, en fait, ils ont une responsabilité, qu'on doit leur donner, certes. L'entraîneur au PSG, il fait pas grand chose. Et là, il y en a plein, ils disent oui, Tourelle, Emery, même Ancelotti sont tous en quart de finale. La preuve, ils réussissent dans les autres clubs. Non, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a une tâche qui est partagée. L'entraîneur, il est coupable. Le président, il est coupable. Le directeur sportif, il est coupable. En fait, il faut mettre un projet en place dans ce club. Tout part de là. Là, en fait, ils ont vu que Wijnaldum était libre, Ramos, Messi, ils l'ont fait, comme ça. Parce qu'ils étaient libres, c'était star, ça fait parler. Mais il n'y a pas de projet. Tu vas pas construire un projet avec Messi, Ramos, qui ont 35 ans, les deux. C'est pas logique, c'est pas viable. Alors que Hakimi, Donnarumma, Nuno Mendes, oui, là, c'est plus logique. Ils sont jeunes, on peut travailler avec eux pour les 5 prochaines années, même plus. Donc il faut être logique dans ce club. Il n'y a pas de logique, malheureusement. C'est ça qui est un peu dramatique.
La fin de saison va être longue.
En fait, dès qu'il y a un joueur avec une aura qui est libre, c'est plus fort qu'eux. Tu vois? Mais sauf que c'est plafonné, ce raisonnement-là. Ça veut dire que là, même là, les noms qui sortent, t'entends Dembélé. Pourquoi, en fait?
Mais il est gratuit.
Oui, il est gratuit, certes. Mais est-ce que Dembélé, dans l'état d'esprit, par rapport à ce dont a besoin le PSG aujourd'hui, c'est le joueur qu'il faut? Je suis pas du tout convaincu.
Rapidement, les amis, il y a eu un autre résultat hier soir, Villarreal, qui n'a fait qu'une bouchée de la Juve sur le score de 3-0. Est-ce que vous êtes étonné? Mathieu, peut-être par ce résultat-là, Villarreal qui est, je le rappelle, un tenant du titre de l'Europa League, et la Juve, c'est un peu compliqué là depuis quelques saisons.
Ouais, quand j'ai vu le résultat, j'ai été étonné quand j'ai vu les 3-0. Après, c'est plus la Juve d'avant, c'est plus la même équipe, c'est plus. Pour moi, ils n'ont plus la même grinta qu'il y avait il y a 2-3 ans.
La Juve de où il y avait Pogba, Pirlo, par exemple.
Voilà. Après, c'était différent quand il y avait Cristiano, parce que l'équipe, elle tournait autour de Cristiano. Mais pour moi, c'est un résultat, c'est pas mérité, mais
c'est bien quand même de prendre une saucée pareille à domicile en 8e de finale quand on s'appelle la Juve, Wesley et Viknesh.
Après, je pense que comme l'a dit Mathieu, déjà, c'est plus la même Juve. Ouais. Je pense que tu sais, il y a un truc, et les gens, ils le négligent, c'est l'aspect psychologique. Pour moi, le Villarreal, hier, quand ils arrivent à Turin, ils arrivent pas avec une crainte. Alors qu'à l'ancienne, quand tu allais jouer au Stadio delle Alpi, ou même là, le nouveau, tu disais, oula, on joue la Juve. Et là, les équipes, elles arrivent décomplexées. Donc forcément, tu te lâches, tu tentes, et le résultat, oui, c'est surprenant parce que, on reste quand même, on est quand même marqué par ce club qui est la Juventus de Turin. Mais quand tu vois ce qui se passe, c'est là où je suis content, entre guillemets, c'est que tout le monde a jeté la pierre à Ronaldo. Oui, mais la Juve, il s'en sort pas parce que Ronaldo. Aujourd'hui, Ronaldo, il est plus là. Et c'est pas pour autant que la Juve est plus performante.
Viknesh, pour terminer.
Ronaldo, justement, c'était l'arbre qui était bien, parce qu'en fait, Ronaldo, il était là pour marquer les buts. Et la preuve, chaque fois, il est champion d'Italie. Et là, l'année dernière, ils sont pas champions. Cette année, je pense que ça va être compliqué. Et là, c'est la quatrième fois que la Juve s'arrête en 8e de finale en Ligue des Champions. Et qu'on a des adversaires contre Porto, l'Ajax, enfin Villarreal maintenant. Donc, c'est pas des gros adversaires non plus. Donc,
attention, à Porto, l'Ajax, ils ont gagné plus de Coupes d'Europe que l'ensemble de l'histoire du football français. Je le rappelle toujours, quand même.
Je compare avec la Juve. Et à ce moment-là précis aussi, parce que là, j'ai pas pris les bonnes heures des années gloire de Porto ou même l'Ajax. Actuellement, normalement, la Juve doit être supérieure. Et la preuve que non. Donc, Allegri, encore une fois, son retour n'est pas gagnant. Il ne fait pas de jeu. C'est médiocre ce qu'il propose. Et il faut voir ce que ça donne à cet été-là. Parce que l'été dernier, ils ont fait quelques évolutions. Là, au mercato d'hiver, ils ont pris Vlahovic, entre autres. Il est là pour quelques années. Il est là pour. Normalement, le projet doit être autour de lui. Doit être construit autour de lui.
Autour de Vlahovic.
Bien sûr. Parce qu'il est jeune, il est buteur, il marque des buts. C'est une petite star. Donc, ça peut le faire. Après, il faut voir comment ça se passe. Il faut voir Rabiot, qu'est-ce que ça donne. Parce que là, Rabiot, c'est catastrophique. La défense. En fait, il y a trop de, d'endroits. Trop de postes. C'est que des chantiers. Et Allegri, lui, il n'a pas changé de philosophie, malheureusement. Avant, il pouvait parce qu'il avait des leaders. Il avait des joueurs pour faire la différence.
Merci, Viknesh.
Personne.
Merci, Viknesh. On se retrouve juste après la pause.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne 20h, 21h. Avec nous, Viknesh, toujours là, le survivant de la soirée, consultant et fan du PSG. Vous avez dû l'entendre en première partie pour nos invités Wesley Bang avec nous et Mathieu 27 qui sont là pour nous parler de leurs différents projets. Si vous voulez réagir aux différents sujets de Time Sport, 01 53 48 3000. J'ai un petit message pour notre invité Mathieu, c'est Mourad. Consultant, un des grands consultants de l'émission, qui dit si Manset est là, dis-lui qu'on allait chez le même barbeur à Rizin. Voilà, donc on comprend mieux pourquoi il a une barbe de grande qualité, bien payée.
Mourad, bien sûr, c'est la classe, Mourad.
Tu diras à Mourad qu'il a une très belle barbe la prochaine fois.
C'est la classe, un grand monsieur quand même.
Allez, on passe à la suite.
Time Sport. The special one.
Vité ce soir, Wesley, Mathieu avec nous. Un plaisir en tout cas de vous avoir. Et puis vous avez la chance, je le dis, de n'avoir que Viknesh comme consultant, donc de pouvoir échanger librement. Voilà, vous êtes.
On peut les torturer librement.
Dans votre domaine, comment?
On peut les torturer librement.
Tout de suite la violence, là, tout de suite, Viknesh. C'était comme ça. On ne croyait pas comme ça.
Hein. Moi, je demande.
Giovanni, on est étonné un petit peu là par la réaction.
Bah, je remplace certains. Donc.
Voilà. Messieurs, comment ça va? Wesley.
Très très bien.
Ouais.
Franchement, très très bien. Il y a pas mal de choses qui s'annoncent. Donc, ouais. Avec Mathieu, on va en parler.
Ouais.
Et c'est surtout de pouvoir faire des choses dans notre domaine de prédilection.
C'est-à-dire?
Dans le foot.
Le football.
Voilà, on a été bercé, élevé, éduqué dans le foot. Comme tout ancien footballeur pro, on a eu notre petite période de petite mort, entre guillemets. Mm-hmm. Mais voilà, là, on revient plein d'énergie. Mm-hmm. On sent que autour de nous, les gens comprennent là où on veut en venir. Mm-hmm. Et voilà, ça, il y a de l'engouement, on est sollicité, etc. Donc, donc voilà, on est heureux et là, on va pouvoir en parler. Mathieu aussi il va dire un peu où on en est.
Rapidement, je vais revenir à ce que vous avez dit, petite mort.
Ouais, c'est important.
C'est important. Alors, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on a été footballeur professionnel et qu'on se retrouve à être dans ce cas de figure? La petite mort, c'est quoi?
Bah, la petite mort, c'est quand on éteint la lumière, en fait. C'est le fait de plus avoir ce quotidien de champion où tu te réveilles le matin et tu t'ennuies, tu sais pas ce que tu vas faire parce qu'on est depuis tout petit, entraînement le matin, etc. Mm-hmm. Et faut se reconstruire une identité. Et ça, c'est un sujet qui est un peu sous-estimé. Mm-hmm. Parce que des fois, on est, et Mathieu a pu le vivre aussi, des fois, on n'est pas forcément compris, que ce soit par des proches, très proches. Mm-hmm. Ils comprennent pas ce qui se passe. Mais se reconstruire une identité à l'âge de 32, 33, 34 ans, c'est un exercice extrêmement difficile.
C'est difficile psychologiquement, cela, Mathieu, justement. Qu'est-ce que dit votre entourage, qui comprennent peut-être pas toujours?
En fait, c'était au début. Là, on a eu la chance d'avoir une assez bonne reconversion. Mmh. Mais quand t'arrêtes le foot, tu reviens dans ta ville, t'as plus le même lifestyle. Mmh. C'est-à-dire que des fois, tu pouvais partir en vacances plus souvent ou faire des choses que maintenant que tu peux plus parce que t'es plus footballeur. Mmh. T'as plus le même vraiment le train de vie où tu sais que c'était entraînement le matin, l'après-midi, tu fais ça. C'est un peu difficile. Après, on a eu de la chance qu'on a été supporté par nos proches, parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui comprennent ce qu'on a vécu et qui le vivent actuellement. Et c'est pour ça qu'avec Wesley, on a décidé de faire notre entreprise d'MSG pour essayer d'aider le maximum de joueurs à la reconversion professionnelle, ce qui est important, parce qu'on n'y pense pas assez tôt. Et au bout d'un moment, quand on a 34, 35 ans, et c'est là qu'on commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis plus footballeur, c'est difficile. Et ça, c'est un point où, qu'on va vraiment essayer de mettre notre pierre à l'édifice pour changer ça.
Mais en plus, tu sais, il y a quelque chose, c'est que Mathieu, là, il a parlé des carrières dans l'idéal, ouais, 34, 35. Ouais. Mais t'as aussi les arrêts de carrière, tu sais, ça arrive brutalement.
Énormément.
Parce qu'en fait, tu vois, on plus là, voilà, vu qu'on va en parler aussi, on est en train de monter une formation, etc. Tu te rends compte qu'il y a des stats et il y a, parmi, aujourd'hui, on a à peu près 10 000 joueurs pro en Europe et t'en as très peu qui ont un second contrat pro. Encore moins qu'ont un troisième, quatrième, cinquième. Donc, t'as énormément de joueurs qui ont eu un seul contrat et fin de carrière pro à 23, 24, 25 ans.
Précoce, ouais.
Derrière, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as un âge, voilà, t'as un âge où tu peux encore jouer, t'as un âge où même tu vois les amis, les gars avec qui t'as joué, etc. Toi, t'as plus rien, t'as plus d'argent, t'as plus rien, tu les vois, ils sont en Ligue 1 et tout. Donc, comment tu vis tout ça? Et donc, de base, nous, on a monté une société de...
Allez-y, on y va, on est dedans.
Voilà, on est dedans, là, on parle business.
Ouais.
De base, on a monté une société d'agents de joueurs. Mm-hmm. Parce que, avec Mathieu, voilà, on sentait qu'on avait la fibre et surtout c'était aussi une revanche sur la vie parce que nous-mêmes on a eu des gros pépins avec nos anciens agents et pour aller encore plus loin dans l'engagement, on s'est rendu compte que au niveau de la reconversion pro, il y avait un vide. Il y avait un vide, c'est-à-dire que ton contrat est fini le 30 juin, le 1er juillet s'il y a rien, il y a rien, il y a personne qui va venir te tendre la main, etc. Donc on est parti de ce constat-là et c'est pour ça qu'on organise des after-work entièrement dédiés au métier du football parce que on part du principe où les footballeurs, ils ont un réseau extraordinaire mais ils ne l'exploitent pas. Et le football est un milieu qui génère énormément d'argent mais il n'y a pas d'écosystème de joueurs ou anciens joueurs. Donc nous on s'inscrit dans tout ça. On a organisé un premier événement qui s'est très très bien passé. Donc là, jeudi prochain, on remet le couvert et on prendra le temps d'en parler aussi. On est en train de monter une formation. Justement, une formation intensive de 12 semaines qui sera à destination des anciens footballeurs pro avec plein d'intervenants sur des thématiques différentes. Et pour moi, le changement, il passera par les acteurs.
D'accord.
Donc, on s'inscrit en plein dedans. Et en plus, nous, on est formés au Havre, qui est une bonne école.
Une des plus belles écoles.
Une des plus belles écoles. Et du coup, c'est aussi voilà, une manière de rendre ce que le football nous a donné. C'est aussi une manière de montrer une belle image du centre de formation du Havre. Ça c'est super important pour nous. Et puis voilà, et puis il y a un message social parce que la plupart des joueurs aujourd'hui on vient de quartiers populaires et le but c'est à un moment donné de redorer le blason, que les gens nous respectent et que le côté entrepreneurial, parce que pour moi tout sportif est entrepreneur et c'est important de Mathieu aussi il a une société à côté donc c'est important de mettre tout ça en avant.
Vignesh,
moi j'ai une petite question, justement comment vous faites pour accompagner concrètement les joueurs? Si on prend un exemple d'un joueur, il y a Ousmane Kanté par exemple au PFC, comment vous faites pour l'accompagner concrètement, comment ça se passe Mathieu?
On lui a cherché une formation de voir qu'est-ce qu'il aimait. Là il a passé le Dugos, il est sur sa deuxième année. Il a validé la première année. Lui, il veut devenir directeur sportif. Donc, on voyait ce qu'il aimait, s'il voulait devenir coach, entraîneur. Et lui, ce qu'il voulait, c'est je veux être directeur sportif. Donc, on lui a cherché la formation, il s'est inscrit. Et en fait, on veut vraiment demander aux joueurs ce qu'ils aiment. On ne veut pas les orienter sur quelque chose au hasard. C'est vraiment quelque chose qui les anime. Donc, on discute avec eux. Si tu aimes bien la mode, on va essayer de trouver quelque chose dans la mode. Si tu aimes bien le sport, on va trouver quelque chose dans le sport. Mais c'est vraiment quelque chose qui les anime.
En fait, c'est personnalisé et vous allez écouter chaque joueur, en fait.
Ouais, et pour Ousmane, tu sais, et parce qu'on travaille aussi avec d'autres joueurs, en fait, on parle tellement de la reconversion pro avec Mathieu et nos joueurs le voient. Donc, du coup, sans leur parler directement, c'est de la sensibilisation. Ouais. Eux-mêmes, du coup, ils sont baignés dedans parce qu'ils voient nos projets. Parce que même là, quand on a fait le premier événement, Ousmane, il est venu. Donc, du coup, ils voient que c'est concret et forcément, ça le sensibilise sur la reconversion pro.
Vignesh,
fais-toi
plaisir.
Cuisine-nous, mets-toi à l'aise.
Non, ouais, pas de soucis, moi j'ai des questions, il y a plein de questions. Mais du coup,
excuse-moi Vignesh, désolé.
Pour l'OM.
Non, le direct, c'est le direct. Rennes vient de doubler la mise et mène sur le score de 2-1 face à Leicester. Ouais. Donc Rennes est à un but de l'exploit grâce à Tête, je ne sais pas si je dis bien Florentais ou Tête, peu importe. Et Marseille a égalisé grâce à Under, un partout entre Bâle et Marseille. L'OM pour le moment qualifié. Notez que Amin Harit avait loupé un penalty. Vas-y, Vic Nesh.
Il est pas très en forme, lui. Et du coup, bah, concrètement, enfin là, vous avez pas mal de bons joueurs, etc. Comment vous faites maintenant, c'est quoi, comment Ousmane Kanté ou d'autres joueurs, vous avez décidé, il sait ce qu'il veut faire, etc. Vous leur donnez des formations. Après, c'est un suivi quotidien. Une fois que, admettons, il trouve son emploi ou il a réussi à avoir ce qu'il voulait, vous continuez à le suivre ou vous lâchez dans la nature?
Après, déjà, là, les joueurs actuels, on les suit surtout sur leur carrière sportive.
Parce que
la formation dont on a parlé, c'est quelque chose qui va arriver. Et en fait, c'est de manière, tu sais, c'est un suivi de manière globale. Et nous, à travers ce que l'on a vécu sur la reconversion pro, ben on a une sensibilité. On sait que on sait qu'il y a des joueurs, ça se voit, ils veulent rester dans le foot. Ouais. Et t'en as, ils sont déjà, par exemple, Axel Docher, avec qui on travaille. Mmh. Lui, il est déjà sur, il est vachement aware, comme on dit. Il est chaud sur ça. Il est déjà sur, lui, il avait fait ses trucs, Staps, etc. Donc, forcément, la suite de sa carrière va s'orienter sur ça. Et en fait, voilà, comme il disait Mathieu, c'est surtout se baser sur les compétences qu'ils ont. Parce que les footballeurs, tu sais, ils sont, comment dirais-je, ils ne jugent pas leur
potentiel.
Voilà, ils savent pas percevoir leur potentiel.
Ils n'arrivent pas à puiser.
Voilà, ils n'arrivent pas à voir le verre à moitié plein, tu vois. Et nous, c'est surtout ça, les valoriser sur les compétences acquises pendant les carrières. Et derrière, ça t'ouvre un champ super large au niveau des choix.
En fait, vous êtes là juste pour en fait fouiller dans chaque joueur, qu'est-ce qu'il veut faire, comprendre ce qu'il veut faire, et du coup après orienter dans chaque direction concrètement.
Ah, fouiller, est-ce que c'est le mot? C'est pas fouiller, le
non,
joueur.
Non, c'est orienter.
Ouais, ou apprendre, dire dans chaque joueur.
Et tu sais. Pour moi, un footballeur qui est déjà qui anticipe sa reconversion, c'est un footballeur qui vivra bien sa carrière.
Ouais.
Tu vois,
il aura pas de crainte, il aura pas de crainte de l'après carrière.
Il va pas angoisser, exactement. Etc. Ouais, etc. Ouais. Et nous, c'est surtout notre objectif majeur, ça. Que pendant ta carrière, parce que dans la journée, tu t'entraînes pas 8 heures, t'as du temps.
Bien
faut
sûr.
Se documenter, bien sûr. Faut s'informer,
faut
optimiser son temps. Exactement. Et les footballeurs, on le fait pas assez. Parce qu'on a entraînement le matin, l'après-midi, on fait rien. Alors qu'on pourrait apprendre, je sais pas, tu vois, du piano ou apprendre.
Est-ce qu'il faudrait justement, alors on sait que le repos est extrêmement important, mais inclure justement peut-être d'autres petites activités sans trop que ça les perturbe
au
quotidien?
Oui. Parce qu'il y a beaucoup de temps libre. Et je pense que ça serait primordial d'ajouter quelques activités. Ça serait bien.
Et vous le faites, vous, du coup?
Ah, on aimait bien sûr. Mais tu sais, le footballeur, il se rend pas compte à quel point il est intelligent.
Oh, bien sûr.
Tu vois? Tu sais, je vais te donner un exemple tout bête. Demain, t'as le ballon en plein match. Tu vas juger, tu vas dire, bon, est-ce que je la mets à mon ailier gauche? Mais est-ce qu'il est plus rapide ou pas? Tu sais, tu fais, en 2-3 secondes, tu fais des calculs, mais incroyables. Tu vois? Et une fois que tu valorises le footballeur, qu'il comprend ça, tu peux l'orienter sur plein de choses. Je te donne l'exemple de Fabrice Pancrate. C'est un ami. Et il me disait, lui, pendant sa carrière, il s'est beaucoup documenté. Mais il était un peu en marge. Et nous, en fait, on veut le rendre fashion un peu, ce truc-là. Tu vois? Parce que les footballeurs, ils sont encore dans le truc de, ah, vas-y, lire des livres, ah, la flemme, etc. Mais non, en fait. Nous, on pense que vraiment, s'informer, is the new black, entre guillemets, tu vois, vraiment montrer une image de, voilà, c'est carré, on est des sportifs, mais le cerveau, il est bien avancé, et c'est vraiment notre objectif. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers tout ce que l'on fait, on arrive à être identifié. Tu vois, on arrive vraiment à devenir un peu une plateforme où on est sollicité, les gens réseautent, tu vois, sur nos événements. On a des gens, ils viennent de Lyon. On a des gens, ils viennent de Rouen. Non. Des gens, ils viennent de Nantes.
Donc,
de Marseille.
Ancien pro, les gars, c'est ça, ancien joueur pro. Ouais. Ok.
Et de tout, des gens qui, tu sais, qui œuvrent dans le milieu du foot, qui ont des petites académies, qui ont des lignes de vêtements, qui sont coach sportifs. Enfin, il y a plein de choses. Et tout ça, bah, à travers ces actions-là, on sait qu'on va inspirer les footballeurs et qui vont se lancer, qui vont monter leurs trucs, leurs affaires, etc.
Mathieu, pour compléter un petit peu là, notre ami Wesley.
Non, il a bien résumé. Et après, ce qu'on fait dans chaque événement, on ramène des intervenants différents, des anciens footballeurs qui ont réussi leur reconversion en pro. Il y en a eu 4 au premier événement. Là, il y en aura 3 autres. En fait, on essaie d'échanger pour qu'ils...
On peut les savoir déjà ou pas?
Oui, bien sûr.
Oui.
Et à Nicolas Duchez.
Oui, Nico Duchez, oui.
Il y a Aziz, Aziz, c'est un recruteur du FC Lorient, qui est ancien footballeur professionnel.
Okay.
Et il y a
Sébastien Basson,
qui a
joué à
Tottenham.
Une grosse carrière.
Du monde,
bien sûr,
Ligue des Champions.
Du beau monde.
Voilà.
Du beau monde.
Et à chaque fois, on essaye de, pour qu'ils nous racontent leur vécu, comment ils ont vécu aussi leur après-carrière. Parce qu'en plus, ça, c'est des gros joueurs qui ont joué dans des grands clubs, qui ont touché des grosses sommes. Et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui nous raconte son vécu. Et c'est vraiment sur ça, on se base vraiment sur ça.
Vignesh. C'est concret. Mais du coup, moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Wesley, tout à l'heure. Tu as parlé du côté social, parce que tu as dit qu'il y a pas mal de footballeurs qui viennent de quartiers populaires, de banlieues, etc. Et on a une image un peu négative, mine de rien, pour, à cause de la société, à cause de l'image que l'on a, à cause des gens, on va dire, de ce qui est revendiqué, ce qui est mis en avant. Du coup, faire ça, c'est aussi mettre le foot dans le bon côté, dans le bon chemin, pour avoir une image plus positive, en fait.
Bien sûr, mais tu sais, je vais te dire un truc. Tu as d'autres sports à côté qui dégagent un peu plus ce côté... On est une famille.
Exactement.
Même s'il y a de l'adversité dans c'est la ça. Compétition, on est une famille. Bah nous, on est en train de poser les pierres entre guillemets pour créer la famille foot. Parce qu'elle existe, parce que avec les réseaux sociaux, on se retrouve tous. Ah toi 89, quand j'étais petit, je jouais contre toi, ceci, cela. Maintenant, comment on élève le truc? Comment on fait du business? Comment on réseaute, etc. On doit aller plus haut. On doit pas juste ok, on a joué au foot. Hop, on quitte le milieu, on s'en va. Non, on a tous des compétences. La plupart, on parle 2, 3, 4, 5, 6 langues. Et on l'exploite.
C'est ça qu'il faut. Et on n'en parle jamais quand on est amené justement à les gars évoluent un peu à l'étranger. Lorsque vous avez évolué à Wesley en Angleterre, Mathieu également, vous avez l'Angleterre, et puis j'ai vu là œuvrer dans différentes nations, et puis vous arrivez dans des équipes où il y a différentes nationalités aussi. Mais c'est une richesse extraordinaire. On n'en parle jamais.
Hey, j'ai joué avec des Coréens, des Iranais, des Mathieu pareil, tu vois, c'est quel autre métier sur cette planète peut t'offrir une équipe de travail avec autant de différences? C'est extraordinaire. Et comment ça, on l'exploite pas? Comment de toutes ces années où il y a eu des footballeurs, on l'exploite pas? Et nous, notre engagement, il commence là en fait. Il commence vraiment sur déjà valoriser tout ce qu'on a appris pendant nos différentes carrières. Donc voilà, aujourd'hui on est lancé. Et franchement, avec Mathieu, on est à fond dans le truc et on enchaîne de rendez-vous en rendez-vous et on sent que voilà, il y a quelque chose qui se passe.
Ok, petite pause. On se retrouve juste après avec nos invités Wesley Bang, Mathieu Hanset et puis Vignesh, consultant survivant du soir. À tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM. Votre émission sport quotidienne, 20h, 21h, on embrasse Bilal et tous les consultants habituellement présents que vous pouvez écouter du lundi au vendredi pour voilà donner leur expertise, leur passion. Des fois, ça part un petit peu dans tous les sens, mais toujours...
peine de la
ouais, exactement, Vignesh qui est le seul ce soir avec nous, nos invités, Wesley Bang et Mathieu Mansell qui sont avec nous, qui nous parlent bien sûr de leur projet. On sait qu'il y a énormément, on le dit pas assez, c'est extrêmement tabou. Beaucoup de dépression, beaucoup de joueurs pros qui arrêtent leur carrière trop tôt, malheureusement. Faites le 53 48 3000, faites comme Mohamed, le pharmacien qui est avec nous ce soir. Mohamed, bonsoir Mohamed.
Ah bon, salam alaikum.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va, alhamdoulilah. Là, bah écoutez, moi, Mohamed, le pharmacien, à votre collègue, je lui ai expliqué la bonne version et la mauvaise version du Mohamed, le pharmacien. Il vous dira ça de vive voix. Hein.
D'accord, ok. Alors quel est l'objet de votre appel, Mohamed?
Là, j'ai un peu effleuré le sujet. Il parlait de la reconversion, etc., non?
Reconversion de quoi, Mohamed?
Des footballeurs et tout
ça. Bravo, Mohamed, ouais. Oui.
Pas de formation. Mais
pour un bac moins 5, ça va, je me débrouille quand même. Hein.
Pour un bac moins 5, les diplômes ne veulent rien dire, Mohamed. C'est dans la tête.
La meilleure école, c'est la vie.
Parce que tout le monde dit du bac plus, je sais pas combien, mais après, ils se retrouvent caissier à Carrefour ou à Leclerc.
C'est vrai, Mohamed, mais on ne sous-estime pas les
caissières. Non, c'est-à-dire, quand c'est un caissière qui a bac moins 5, moins 2 que moi, c'est un peu logique, normal.
Oui, alors Mohamed, dites-nous, vous voulez réagir peut-être à la reconversion, on vous écoute.
Oui, non, la reconversion, moi, c'est un sujet que je connais un peu, parce que, comme vous avez regardé, je ne sais pas, regardez, Tensor, c'est mon fils, il est un petit peu meneur du jeu là-dedans. Et eux, ils commencent à l'envers, ils prennent les enfants de 12 à 18 ans, et ils essaient de les mettre dans le club, quand c'est demandé. Bon, après, s'il y en a qui sont plus capables pour convertir des gens qui ont 20 ans et tout ça, qu'ils ont, malheureusement pour eux, ils ont échoué, parce que tout le monde ne peut pas être Zidane, c'est comme ça, quoi, hein.
Oui. Oui. Et donc, justement, on en est où avec votre gamin?
Tout, personne n'est bête, personne n'est intelligent, mais le travail suffit.
Et oui, exactement. Oui. Voilà. En effet, est-ce que vous avez une question pour nos invités ce soir, Mohamed?
Non, par contre, je suis un peu inquiet pour Marseille, quoi.
Pourquoi? Pourquoi Mohamed?
J'ai pas suivi, attention, parce que j'ai dit en mode. Parce que, comment dire, là, je vais être un peu tutu et rester sur mes positions. Quand un club ou une équipe, plus ou moins nationale, internationale, n'a pas de numéro 10 à l'ancienne et un faux 10, c'est pas évident de faire le jeu.
C'est compliqué.
Parce que c'est très compliqué, parce que Neymar et tout ça, et je sais pas qui, là, tout ça. Et quand on donne le ballon bien placé, comme le dure notre ami Kegan, il a marqué. Mais quand, là, je viens sur le PSG en passant par Marseille, je dis, je maintiens, PSG, il faut qu'il prenne un but demi, un deuxième, mais c'est trop tard, là,
hein. Ah, c'est trop tard, Mohamed. Mohamed, merci en tout cas pour votre intervention sur Time Sport.
Mais là, je m'inquiète un peu pour, comme je vous ai dit, un peu pour l'équipe d'Algérie, parce que c'est pareil, moi, j'ai donné, l'intermédiaire de Mohamed et, par contre, Nasser, une composition plus ou moins bizarre que je vous ai dit hier, de 4-5-1, et s'ils tiennent ça, ils peuvent faire 0-0 là-bas, après ils m'appellent, ou je vais le dire à l'antenne, je leur donnerai une autre tactique pour gagner.
Très bien Mohamed, en tout cas on note tout ça, merci, on espère en tout cas que l'Algérie sera au rendez-vous pour bien sûr disputer la Coupe du Monde au Qatar, mais ça sera face au Cameroun, donc une tâche assez compliquée. Ça a évolué sur les matchs européens, c'est terminé même du côté de la Suisse, l'OM s'impose finalement sur le score de 2-1 grâce au buteur marseillais Valentin Rongier, je rigole bien sûr, hein, Rongier qui marque quasiment pas mais qui donne la victoire aux Marseillais. Rennes-Leicester, 2-1 pour Rennes. On joue depuis 98 minutes de temps additionnel. Il a dû se passer des choses du côté du Roizen Park. Et une petite info pour ceux qui voilà qui intéressent notamment, qui suivent le FC Barcelone. Le Barça s'est imposé à Galatasaray sur le score de 2-1 et donc qualifié pour les quarts de finale. Quant à l'AS Monaco sort des coupes européennes. Les Monégasques ont été tenus en échec 1-0 face aux Portugais de Braga.
Ils avaient perdu 2-0.
C'est Monaco, 2-0. Ouais.
Non, après il y a quand même des clubs français qui passent, donc c'est cool. Et je pense que le Barça construit très très bien la suite.
Très bien.
Je pense qu'ils prennent cette coupe au sérieux et voilà le fait de jouer des matchs pendant la semaine, etc. Avec l'ensemble des jeunes joueurs qu'il a. Et je pense qu'à l'avenir, il va récolter les fruits de son travail,
Xavi. Bien sûr. Allez, revenons avec nos invités. Une formation, parler de cette formation que vous allez mettre en place, cet événement aussi à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nos auditeurs et nos auditrices?
Alors,
qui se regarde, qui en parle, c'est lui.
Non, la formation, en fait, donc là, bon, on va un peu teaser. On veut pas forcément tout dire, mais en tout cas, ce sera un programme intensif de 12 semaines.
D'accord.
Donc là, on est en train de se mettre d'accord sur les lieux. Ça commencera en septembre, donc il y aura 10 stagiaires.
D'accord.
C'est une formation qui sera à destination de 10 anciens footballeurs avec des intervenants dans des domaines bien précis. Ce sont des experts. Et le but, c'est vraiment qu'à l'issue de cette formation, déjà, ils aient un bagage complet, une réelle connaissance d'eux-mêmes. Et ensuite, il y en a, ils vont se diriger vers le salariat, vers l'entrepreneuriat. En tout cas, ils auront eu un module complet, prise de parole en public, leadership, entrepreneuriat, bilan de compétences, coaching psychologique, gestion financière, gestion d'image. Et voilà, on pense que ça passe par là. On en est convaincu. Mmh. Et le but, c'est à moyen terme de la développer, d'aller dans d'autres, d'aller dans d'autres villes, parce que le besoin n'est pas qu'à Paris. Mais on est persuadé d'être à l'aube de quelque chose de grand. Mmh. Ça, on en est convaincu.
Mmh. Mmh. Mathieu, quelles compétences ou quel profil il faut justement pour participer à cette formation?
Il n'y a pas vraiment de profil précis.
C'est important de le souligner.
Il n'y a pas de profil précis, c'est juste il faut le vouloir en vrai. Il faut vraiment vouloir sa reconversion et être à 100%
dans le projet.
Dans le projet, ouais.
Et en plus, ce qu'on fera, c'est que ce qui manque aux footballeurs, c'est le vestiaire. Et là, à travers ça, on va leur redonner une vie de groupe en fait. Ça va être, c'est pas une course. c'est un challenge collectif. Le but, c'est que vraiment, dès que la formation démarre, le but, c'est que vraiment chacun comprenne qu'ils sont là pour s'entraider. Mmh. Ils sont là pour s'entraider mmh. et que, voilà, c'est à 10 qu'on va y arriver.
Ouais, c'est vraiment cette, équipe, voilà.
Un exactement. Un travail d'équipe, comme disait Mathieu. Et ce qui est bien, c'est que voilà, nous, on est passé par là. Donc à l'heure actuelle, on capitalise sur notre histoire en fait pour derrière créer un business, mais un business social entre guillemets, un business vraiment qui va changer des vies. Et comme on le disait tout à l'heure, le but c'est de vraiment valoriser les footballeurs.
Vignesh, dernière question.
Ouais, une petite question pour vous mettre, pour faire un peu de la pub aussi. Du coup, pour voir tous ces projets, toutes ces magnifiques choses qui arrivent, comment on fait pour vous suivre sur les réseaux, sur Internet en général?
MSG Consulting sur Instagram. Il y a le site internet qui arrive. Et Wesley Baeng et Mathieu Mancé sur Insta. On a nos pages, on est assez actifs. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est important.
Ouais.
C'est super important. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous rapporte des affaires. Clairement, donc voilà, on continue à être actif. Bah là, pour notre événement du 24, les inscriptions passent par là aussi. On communique que sur les réseaux sociaux et c'est presque complet déjà.
Voilà,
s'il y en a qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail msgconsulting@outlook.com ou alors vous nous contactez sur nos réseaux sociaux respectifs.
Vignesh, tu veux t'inscrire, non? C'est ça?
Bien sûr, on va aller faire un petit tour pour voir comment ça se passe exactement.
Avec grand plaisir.
Ça se déroule où?
C'est en plus c'est l'établissement d'un ancien footballeur, c'est au code 45, c'est à Michael Siani.
D'accord.
Qui a fait une belle carrière aussi. Mm-hmm. Rien n'est fait au hasard. Ouais. Rien n'est fait au hasard. Mm. On est chez un ancien footballeur.
Mm. Pour les footballeurs,
il y a même parmi les gens qui se sont inscrits, parce que j'ai la liste, il y a des journalistes, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de monde. Donc il y a Olivier Delacroix qui sera là aussi de France 2, dans les yeux d'Olivier, qu'on salue. Voilà, il y aura du beau monde. Il y aura du beau monde, donc vraiment, faut pas hésiter à s'inscrire. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Et il faut que les gens comprennent qu'ils s'inscrivent aussi dans un projet. Mmh. C'est ça, c'est important pour nous. Que les gens comprennent que c'est ensemble qu'on va faire bouger les choses.
Mmh. Allez, on passe à la suite.
Time Sport. La troisième mi-temps.
L'équipe de France affrontera le 25 mars la Côte d'Ivoire du côté de l'Orange Vélodrome à Marseille, puis l'Afrique du Sud le 29 mars à Lille, 4 jours plus tard. Liste des Bleus, sans surprise, mais avec de nouvelles têtes. Tiens, Christopher Nkunku, le milieu de terrain qui évolue en Allemagne, de Leipzig. Merci Vignesh. Et puis l'arrivée du latéral droit, Jonathan Klaus, qui évolue au Racing Club de Lens, les amis. Sinon, après, classique, hein, Loris, Maignan, Areola dans les buts, Pavard qui est positif au Covid, donc il est incertain. Varane, Kimpembe, Koundé, Hernandez, les frères Hernandez derrière, Digne au milieu de terrain, Pogba, Kanté, Rabiot, Guendouzi, Aurélien Tchouaméni, et enfin devant, Mbappé, Benzema, Ben Yedder, Coman, Diaby et enfin Griezmann.
C'est pas mal quand même. Hein.
C'est tout ce que tu as à dire.
C'est une bonne liste, hein, mine de rien. Non, mais c'est... En fait, on se rend compte des joueurs qu'on a quand même. Donc là, quand tu fais la liste, on sait qu'on a un bon vivier en France.
Les nouveaux.
Nkunku. C'est amplement mérité. Ouais, il fait une deuxième saison incroyable. L'année dernière, il était monstrueux. Donc on ne comprenait pas trop pourquoi il n'était pas pris. Mais là, il continue sur sa lancée. C'est le leader technique de Leipzig. Tout tourne autour de lui. Donc là, c'est largement mérité. Passeur. Buteur, il répond présent. Et Jonathan Klaus, bah enfin, parce que c'est le meilleur centreur de la Ligue 1. Il est habitué à jouer à 3 derrière depuis quelques années. Maintenant, l'équipe de France joue avec 3 défenseurs. Donc, on attendait de le voir et on le verra, je pense. Et s'il fait des bonnes performances, bah, on ne sait jamais, il peut peut-être gagner sa place pour l'équipe de France et pour la Coupe du Monde. Donc, en fait, ça, c'est des curiosités qu'on en avait depuis longtemps et qu'on attend. C'est l'occasion de les voir. Et à eux de jouer maintenant, en fait. On a des adversaires à notre portée, des adversaires où ils peuvent être bons, c'est pas des grosses affiches. Donc là, c'est l'occasion de briller pour eux, en
attention,
fait.
Attention, Mathieu, il voit rien. Attention à ce qu'on
dit. C'est une bonne équipe, la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, il y a des beaux joueurs. Bah après, il faut dire que bon, c'est pas l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne encore, la Côte d'Ivoire.
Il faut respecter quand même.
Mais bien sûr, c'est une bonne équipe.
Africaine, respectons les
Ah, mais j'adore l'équipe, j'adore moi.
J'ai rien dit tout, juste
l'équipe. C'est incroyable ça.
Je place le.
Ah oui,
juste
Non, alors plus sérieusement, merci Vignesh. Wesley, Mathieu, Klaus, Nkunku.
Ouais, un coucou, c'est mérité.
Ouais, c'est mérité, hein.
Ouais, avec le début de saison, bah, la moitié de saison qu'il fait, c'est amplement mérité. Mmh. Je suis content pour lui. Ça se voit qu'il a franchi un cap. Je pense que mentalement, il a franchi un cap. Et je suis content, c'est issu la même lignée que Djabi, c'est les anciens du PSG.
Ouais, c'est les anciens du PSG qui ont peut-être pas eu la chance.
La chance, ouais, de pouvoir s'exprimer totalement au PSG. Je suis content. Et pour Klose, oui, c'est bah, pour moi c'était normal. C'est il mérite aussi et j'ai hâte de le voir jouer.
Bel exemple quand même, Klose, 29 ans voilà, en sélection. C'est
magnifique.
Wesley.
En fait, c'est magnifique parce qu'il a pas forcément le parcours classique, formation, etc., etc. En fait, ce qui est bien, c'est dans cette sélection, il y a plein de messages. Comme on l'a dit là, Diaby, Nkunku, des joueurs qui n'avaient pas forcément leur place au PSG, qui ont su partir au bon moment, et aujourd'hui, ils sont devant des joueurs qui ont voulu rester au PSG éternellement. Et franchement, ouais, Deschamps, il a écouté le peuple, hein, comme on dit, parce que Nkunku, il y avait quand même limite, il y avait une manif tout autour. mais c'est vrai, on a quand même une équipe qui est en termes d'individualité, c'est quand même incroyable.
Énorme, ça, ouais,
quand tu disais la liste, c'est quand même incroyable. Et ce qui est bien, c'est que encore une fois, je pense que l'échec à l'Euro, je veux pas dire mal pour un bien parce que c'est cliché, mais ils ont bien rebondi. Ils ont bien rebondi et du coup, pour moi, ils arrivent toujours sur le prochain mondial avec un statut de favori, mais statut de favori averti. Donc non franchement je suis pressé de voir comment ça va se passer.
La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud et puis voilà la liste rapidement les amis du Maroc qui disputera donc son barrage face à la République démocratique du Congo 25 mars du côté de Kinshasa et 29 mars match retour au stade Mohamed 10 à Casablanca sans Hakim Ziyech. Surprenant,
normal.
On trouve ça
normal maintenant.
Normal. Déjà, il y a eu trop. Déjà, Ziyech, l'arrivée de Ziyech en sélection, déjà, c'était un problème. Il a mis du temps à se décider, Pays-Bas, pas Pays-Bas, etc., etc. Donc, déjà, quand il est arrivé, la réception, elle était mitigée. Que ce soit du côté des coéquipiers, parce qu'à un moment donné, on va pas te mendier pour que tu viennes en sélection. Et là, voilà, interview, je sais plus, c'est pour Chelsea TV ou je sais plus. Et librement, ouais, moi, je vais plus en sélection.
Ouais,
à un moment donné, ce que les joueurs font pour les sélections africaines, ils seraient jamais capables de le faire pour les sélections européennes.
Donc, si tu veux pas venir, ne viens pas.
C'est vrai, ça le problème.
Ah oui, tu es interview comme ça, je vais plus en sélection. Ouais, ça c'est un vrai sujet. Vignesh, pour terminer, rapidement, Vignesh.
Pour dire qu'en gros, les joueurs, en fait, c'est pas eux qui doivent dire s'ils vont en sélection ou pas. Une sélection, ça se mérite. Pour jouer pour une nation, en fait, on doit le vouloir, ça vient du cœur. Et c'est pas forcément le cas de tous les jours, même
merci,
en France.
Merci, Vignesh. Merci, sans oublier, hein, bien sûr, Hakimi dans ce groupe et Boufal également. Merci à nos invités, Wesley, Mathieu.
Allez les suivre sur les réseaux.
Oui, mais vas-y, Vignesh, vas-y, vite fait.
Faire de la pub. Là, allez les suivre sur les réseaux, même contactez-les sur leur compte Instagram et inscrivez-vous sur leur formation.
Ouais, leur formation est extrêmement importante, en tout cas, bravo.
Merci.
Les garçons, vous êtes qu'au début d'un long projet.
C'est ça. Et merci à vous,
pour l'invitation.
Pour l'invitation et un grand big up à Bilal qui nous écoute forcément de là où il est.
Ouais, de là où il a suivi la victoire. Marseille, je rappelle, qualifié pour les quarts de finale de l'Europa Conference League. Et puis Rennes, malheureusement, est éliminé, tout comme l'AS Monaco, éliminé après ce match nul à domicile face à Braga. Vignesh, merci beaucoup. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Merci à Giovanni à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM. Passez une belle soirée.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.